Vous écoutez RTL.
11h03 sur RTL, on est fait pour s'entendre maintenant. Bonjour Flavie Flamand.
Bonjour Céline Landreau. Céline, c'est à 16h que l'on vous retrouve, vous et l'actualité sur RTL.
À tout à l'heure.
Moi, on m'a tout fait. Flavie Flamand rose, évidemment. Flavie Flamand talot. Flavie Flamand tassion. Flavie Flamand touche sans toucher l'autre. On parle des noms de famille cet après-midi en direct sur RTL. À tout de suite.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Et si on se faisait tous une petite place ici, dont on est fait pour s'entendre, pour une parenthèse de bonne humeur, de bienveillance, de curiosité, de mieux vivre et de connaissance. Et si on faisait comme si le monde n'était pas fou tordu, comme si les fanatiques n'étaient pas tarés et l'air complètement pollué, comme si la journée allait nous apprendre quelque chose, nous réunir plutôt que nous diviser, nous ouvrir plutôt que nous renfermer, nous faire regarder le ciel et les autres plutôt que le bout de nos pompes. Bienvenue dans On est fait pour s'entendre, nous sommes en direct jusqu'à 16h avec vous bien sûr et on va tâcher de se faire du bien. C'est vous qui nous avez demandé le thème d'aujourd'hui et j'en profite pour vous remercier d'ailleurs pour tous vos messages laissés sur les réseaux sociaux dont on est fait pour s'entendre. Vous avez demandé, alors on l'a fait, cette émission sur l'origine de nos noms de famille avec notre invité évidemment, notre guide. Bonjour Marie-Odile Merniac, soyez la bienvenue sur RTL.
Merci.
Merci de bien vouloir relever encore une fois le défi pour nos auditeurs en direct de trouver leur signification. En tout cas l'origine de leur nom de famille. On a fait un carton pour la première émission. Beaucoup de frustrés qui nous ont dit on en veut une deuxième. Ben voilà, RTL vous le propose aujourd'hui. Vous êtes auteur, historienne, généalogiste, auteur d'un ouvrage, l'Atlas des noms de famille chez Archives et Culture. Vous n'êtes pas venu avec votre atlas, vous êtes venu avec votre ordinateur. Qu'est-ce qu'il contient cet ordinateur justement?
70 000 noms, les résultats de recherche, d'années de recherche et puis des fichiers sur différents thèmes toujours liés au nom de famille.
Je n'avais pas imaginé à quel point les noms pouvaient être variés. On les quantifie en France ?
1 300 000 environ, et c'est le record du monde.
En France ?
Oui. En Chine, il n'y en a que 1 000 000, à peu près.
Comment on explique ça ?
Parce qu'en Chine, on avait une liste de 100 noms qu'on apprenait par cœur aux écoliers à l'école, puisqu'il fallait apprendre à l'écrire, il n'y a pas d'orthographe syllabique.
Oui.
Et donc, quelqu'un qui migrait en Chine devait obligatoirement adopter un nom de famille déjà existant.
Donc il y a plein de Dupont chinois.
Il y a l'équivalent.
Non, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, oui, en fait, ils sont très nombreux, mais ils partagent les mêmes noms.
Les quatre premiers noms de famille se partagent la moitié de la population de Chine.
Incroyable.
Et comme on n'a pas le droit d'épouser quelqu'un qui porte le même nom de famille parce qu'on dit que, oui, qu'il pourrait y avoir une consanguinité.
Ça complique les choses
encore. Ça complique les choses. Il vaut mieux demander le nom de celle que l'on rencontre ou de celui que l'on croise avant d'aller plus loin.
Voilà, exactement. Dis-moi ton nom et après je te dirai si on peut consommer ou pas. On va accueillir, si vous le voulez bien, tout de suite, on va ouvrir le bal avec Frédéric sur cette antenne. Frédéric, bonjour, bienvenue sur RTL.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Frédéric. Alors, ça c'est votre prénom, mais votre petit nom de famille, c'est quoi ?
Cuba. Comme le pays, mais on rajoute un T à la fin.
D'accord. On prononce Cuba ou Cubat ?
Cuba, on prononce.
D'accord. C'est pas non plus comme un Q qui est bas. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi,
non,
mais quand je vous écoute, je me dis, tiens, non, mais on pourrait s'interroger. Vous l'avez déjà entendu ?
Oui, je l'ai déjà entendu souvent, celle-là aussi.
Je ne sais pas si vous avez entendu tout ce que j'ai pu entendre, moi, avec le nom de Flamand tout à l'heure.
Oui, c'est vrai, j'ai entendu.
Ça n'est pas toujours facile. D'ailleurs, j'invite tous nos auditeurs, s'ils ont de nouvelles idées avec le nom Flamand, n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer ça sur les réseaux sociaux. On fera un petit florilège à la fin de l'émission. Alors, Frédéric, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de vous et de votre nom de famille. Est-ce que vous savez d'où il vient ?
Ben non, pas du tout, justement, c'est pour ça que j'ai envoyé le message.
Mais est-ce que vous avez déjà entendu des histoires au sujet de votre nom ?
Une vieille histoire que j'avais entendue, mais la seule chose qu'on m'avait racontée, c'était parce que apparemment, dans mes origines, on aurait retrouvé un de mes ancêtres dans un champ. Et c'était parce qu'il n'avait pas de drap ou je ne sais pas trop quoi, et que c'était lié par rapport à ça.
Oui.
Parce qu'il n'y avait pas de couche-culotte ou de drap,
d'accord,
comme ils disaient à l'époque, et par rapport à ça, on l'avait nommé ainsi.
D'accord. Alors, on va se tourner vers Marie-Odile, qui ne connaît pas vos ancêtres, hein, mais qui connaît en tout cas l'origine de votre nom de famille.
Marie-Odile, oui, bonjour Frédéric. C'est un nom qui est assez rare et qui est porté principalement dans l'Aude, dans le Sud. Et dans le Sud, on a tendance, si on pense à l'espagnol, je ne le parle pas, mais si vous le parlez, vous savez qu'on inverse parfois le V et le B en termes de sonorité. Et ça désignait quelqu'un qui avait une grande cuve.
Qu'est-ce qu'on entend par cuve ?
Une cuve, c'est une sorte de grand réceptacle pour les eaux de pluie.
D'accord.
Et dans les pays un peu secs, les pays du Sud, c'était très important. Celui qui était le propriétaire d'un cuveau ou d'une cuve, on trouve beaucoup de noms qui tournent autour de cette racine cuve ou cube dans le Sud. C'était quelqu'un de très important puisqu'il pouvait irriguer ses terres.
D'accord.
Donc on trouve des cubes, on trouve des cuves en nom de famille dans les pays du Sud, et avec le AT à la fin, ça signifie qu'il en avait une très grande, c'est un suffixe augmentatif.
De cuve, hein, Frédéric.
De cuve.
Ah oui.
Voilà. Donc, votre ancêtre, dans les années 1200-1300, c'est l'époque de formation des noms de famille, avait une maison qui se faisait remarquer parce qu'elle avait une grande cuve pour irriguer précisément les alentours, le jardin, les champs,
etc.
C'est
joli comme histoire. C'est pas mal quand même.
C'est une belle histoire. Ah oui, oui.
Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, Frédéric ?
Ah, je suis chauffeur, en fait. Je suis chauffeur poids lourd dans la vie.
Et cette histoire de, justement, de cuve, de propriété qui irriguerait les terres, est-ce que vous voyez ça un petit peu dans l'histoire de vos ancêtres ?
On est une famille de... Enfin, oui, non, on est surtout une famille de... Du côté de ma mère, des enseignants beaucoup, et du côté de mon père, on est aussi routier de père en fils. À vue de nez, je ne vois pas comme ça. Mais
Il s'est écoulé 800 ans.
Oui, il y a 800 ans depuis, on ne sait jamais. En tout cas, je vous remercie. Et puis, je suis très contente que vous ayez pu connaître donc, l'origine de votre nom de famille, Frédéric. Et puis, je ne sais pas si quand vous arrêtez sur la route, vous avez envie de lire. Mais en tout cas, sachez que nous allons vous envoyer tout de suite à l'occasion de la tournée Folio sur mer. Folio et RTL vous offrent, à vous qui êtes intervenus sur l'antenne, une sélection des meilleurs titres, les meilleurs livres, justement, qui sont édités. Donc, vous pourrez... pensez à nous en lisant.
Oh bah c'est très gentil, c'est un grand merci. J'aime bien lire, ça tombe très bien.
Eh bien, c'est super. Et moi, je me permets de vous embrasser, de vous souhaiter bonne route. Et voilà, je suis très heureuse qu'aujourd'hui, vous en sachiez un petit peu plus sur vos origines. C'est ça qui est super dans cette émission.
Merci pour toi,
à très bientôt.
À très bientôt et bonne émission.
Je vous embrasse, au revoir. Valy, vous qui nous avez laissé un message pour dire mon nom de jeune fille est Trognon. C'est mignon, non ? Oui, c'est mignon, mais dans un instant, vous allez savoir d'où ça vient. À tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
C'est vraiment le moment de nous appeler ou de nous laisser des messages sur les réseaux sociaux pour connaître l'origine de vos noms de famille. Merci en tout cas de nous être fidèles. Il est 15h11, nous sommes ensemble jusqu'à 16h en direct sur RTL. Et Valy, vous qui nous écoutez, Valy Trognon, c'est pas mignon ça, Trognon. J'adore, je trouve ça super, super mimi. Alors justement, Marie-Odile Berniac, vous êtes notre invitée, l'invitée des auditeurs d'RTL. Qu'est-ce qu'on peut dire à Valy Trognon sur son nom de famille ?
Que Trognon, ça désignait quelqu'un qui était tout petit, donc effectivement tout mignon, elle dit qu'on le prenait souvent comme ça. Voilà, un millier de personnes le portent en France et principalement sur la moitié nord du pays.
Est-ce que c'est un millier, ça correspond à un nom assez courant ?
Ça correspond à un nom courant, oui. Vous avez 300 000 personnes qui sont toutes seules à porter leur nom en France.
D'accord, ok, un nom rare. C'est combien
c'est
de...
En dessous de 30 personnes, les historiens, les démographes disent que le nom va s'éteindre.
Est-ce qu'il y a des noms qui meurent chaque année ?
Oui. 220 000 ont disparu depuis la Seconde Guerre mondiale, déjà.
Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des familles qui, au nombre de 3, 4 personnes, qui sont détentrices d'un nom dont elles savent justement qu'il est en danger ?
Oui, en général, elles le savent. Et la loi permet plus facilement justement les changements de nom et la reprise de nom en voie de disparition. Ce qui est sympathique, on peut reprendre un nom qui risque de s'éteindre.
Ah oui, on peut endosser un nom qui n'est pas notre nom d'origine. Pour, mais qui fait partie,
s'il fait
de, la
partie
famille,
de la famille.
Bien
voilà.
Sûr, oui, on est d'accord. Sinon, on va sauver des noms de famille et organiser un nom-ton. Mais voilà, on peut en tout cas, si on sait que dans sa famille, on a un nom qui risque de s'éteindre, on peut endosser ce nom en plus de notre nom d'origine.
Oui, tout à fait.
C'est important à savoir. Oui. Et on se tourne vers qui dans ces cas-là ?
La direction des Sceaux.
D'accord.
Pour demander un changement de nom. C'est un petit peu long.
Oui.
Et si en revanche on le porte encore, puisque maintenant on peut donner à ses enfants soit le nom de l'épouse, oui, soit le nom de l'époux, si c'est le nom de l'épouse qui risque de disparaître, après tout on peut le donner aux enfants.
Très bien, c'est bon à savoir, on mettra toutes les infos de toute façon dans un bulletin spécial sur notre page Facebook. Christa, j'ai 45 ans, mon arrière-grand-mère venait de Normandie et s'appelait Blanc d'Amour. Avez-vous des informations sur ce nom ? Est-ce que c'est aussi joli que le nom en lui-même, Blanc d'Amour ? C'est romantique.
Oui. Eh bien, c'est exactement ça, Blanc d'Amour, ça voulait dire pâle d'amour.
Ah, c'est
quelqu'un qui était transi d'amour. et qu'on a surnommé ainsi. Ouais. Donc 200 personnes, l'amoureux de départ était sans doute normand puisqu'on les trouve presque tous dans le département de la Manche.
Ah très bien, ok, que je salue.
Et on passe Normandie. Et voilà, donc un très très mignon surnom, puisque tous nos noms de famille sont au départ des surnoms. Il faut bien se dire ça. Le surnom pouvait être très classiquement le prénom du père, simplement, donc là il n'y a pas beaucoup de surprises, mais ça pouvait être un nom de lieu d'origine, un métier, ou alors un surnom vraiment lié à la personne, comme celui-ci.
Alors on reste dans le domaine amoureux justement. Vincent, mon nom est Lamour, L-A-M-O-U-R, je suis originaire du Finistère Nord, quelle est son histoire ?
Encore un amoureux. Oui. Il y a eu beaucoup d'amoureux, mais aujourd'hui encore. Et à cette époque, on trouve 7000 personnes qui portent aujourd'hui ce nom créé donc il y a en gros 800 ans. On trouve des Lamours, on trouve des Lamoureux. Les Lamours sont plutôt en Bretagne, les Lamoureux sont plutôt sur Paris. Et le piège, ce sont les Lamourets de Gascogne, okay. Puisqu'en gascon, l'amouré, ça signifie le marécage.
D'accord,
donc
ce qui n'a rien à voir, les gars.
Un lieu d'origine qui n'a rien à voir.
D'accord, bon, on peut toujours rêver, hein, mais en tout cas, ça n'a rien à voir. Alors, à propos de rêver, Francky, my name is Saint Machin. Et oui, ça n'est pas commun. Mon grand-père paternel est né de père inconnu. Je n'ai donc jamais cherché plus loin. Saint Machin, S-A-I-N-T-M-A-C-H-I-N.
Alors, ils sont maintenant une centaine à porter ce nom, principalement dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, il faudrait qu'ils vérifient par une généalogie, puisqu'il dit qu'il descend d'un enfant qui, peut-être, avait été déposé à l'assistance, si c'était un nom inventé par l'officier d'état civil au 19e siècle. Ça arrivait. Les officiers
quand
d'état civil
enfants,
pouvaient faire ce qu'ils voulaient.
Mais donc, c'est-à-dire qu'ils pouvaient, si à l'époque le périph' avait existé, ils auraient pu appeler un enfant
exactement,
périphérique.
Exactement. Comme nom
donc, Saint-Machin, ça peut être une mauvaise blague à la base.
Saint-Machin, ça peut être une mauvaise blague, mais sinon, ça peut aussi être l'indication d'un nom de lieu, puisque tous les noms de famille qui sont Saint quelque chose évoquent un lieu d'origine. Donc, on peut aussi chercher sur les cartes du Nord-Pas-de-Calais ou du sud de la Belgique, ouais, s'il n'existe pas un lieu, Saint-Mache quelque chose, qui pourrait être à l'origine du nom de la famille.
Voilà, Francky, surtout, tenez-nous au courant. Merci de nous avoir laissé ce message sur Facebook. J'espère qu'on a pu vous éclairer. Mais maintenant, on aimerait en savoir plus. Donc, faites votre recherche et puis dites-nous. Un message de Grégoire. Le dentiste, écoutez bien, le dentiste de mes parents s'appelle Monsieur Bechtart. Le gynécologue de ma mère, Monsieur Benlolo, et le pédiatre de ma sœur, Docteur Bébé, ce n'est pas une blague. Eh bien, dans un instant, justement, Christelle, ça n'est pas une blague non plus, nous a raconté l'histoire de Monsieur Le Porc qui épouse Madame Mouton. Eh bien, vous saurez tout tout de suite sur RTL grâce à notre invitée Marie-Odile Merniac. À tout de suite sur RTL. Tout de suite, voici Navi.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Merci d'être avec nous. Alors, on essaye vraiment de répondre à toutes vos demandes. On y va direct, si vous le voulez bien. Alors, il y a un instant, je vous parlais donc du dentiste des parents de Grégoire qui s'appelle Monsieur Bechtart, le gynécologue Benlolo, la pédiatre Docteur Bébé. Il y a beaucoup de noms de familles comme ça qui résonnent avec les métiers, Marie-Odile Merniac.
Oui, oui, on appelle ça des aptonymes. Et on a l'impression que ça prédispose peut-être certains à jouer sur les mots et à choisir une carrière en fonction de ça. Dans le sud-ouest, on a beaucoup d'infirmiers et d'infirmières qui s'appellent Picmal.
Monsieur, Madame Picmal, appelez-nous s'il vous plaît.
Voilà, on a des Lacrampes, des Bourreaux, des D'Angoisse et des Bismuth en médecin.
Oui, bien sûr. Bon. Docteur D'Angoisse, ça fait super envie.
Bourreau, c'est pas mal aussi, surtout quand ils sont dentistes. Et puis des opticiens qui s'appellent Le Borgne. En Bretagne, on en a plusieurs. On a aussi un sénateur actuel qui s'appelle Serge Lagauche. Heureusement, il est de gauche.
Oui, très bien. Oui, il a choisi son camp, évidemment. On voilà, se demande si c'était prédestiné ou pas. Donc, avoir des noms comme ça qui ont une résonance avec des métiers, c'est assez courant. Néanmoins, maintenant, on a l'histoire de Christelle. Petite anecdote. Les voisins de ma grand-mère, Monsieur Le Porc, a épousé Madame Mouton. Voilà, voilà, ces deux-là étaient faits l'un pour l'autre. C'est certain. Mouton et Le Porc, est-ce que l'on peut imaginer des origines de noms de famille qui effectivement pourraient rappeler l'univers de la ferme.
Ah, il y a beaucoup de noms qui rappellent des animaux. Ouais. Ça, je crois que tous les animaux de la ferme doivent exister dans nos noms de famille. La mouton, c'était une personne qui avait un caractère paisible, qui était douce comme un mouton. Le porc, ça se discute. Ça n'est pas forcément l'animal, ça peut être...
Le porc du bateau
Le porc de rivière ou le porc de mer. Si on regarde les... le porc avec un T à la fin. On en trouve beaucoup aussi, et principalement à l'intérieur des terres. Et comme autrefois, tout était phonétique, les gens ne savaient pas écrire. Mmh. Quand ils disaient le porc devant un curé ou devant un employé d'état civil,
c'était
selon
un peu écrit,
celui qui écrivait, il mettait un C, il mettait un T. Donc, il faudrait faire une généalogie pour voir si la forme ancienne du nom est plutôt le C ou plutôt le T. Et le porc était un animal sympathique au Moyen-Âge. Aujourd'hui, on a tendance à le trouver un petit peu sale. Autrefois, non. On l'emmenait dans les champs, d'abord comme les moutons.
C'est comme ça qu'ils sont, ils sont retrouvés, d'ailleurs.
Oui, pardon. Oui. Je n'ai même pas fait exprès.
Dans le troupeau. Donc, le porc était un animal qui était voilà, populaire, quoi.
Un animal qu'on promenait. Et du coup, j'ai perdu mon... Et oui, et c'était même un prénom autrefois, parce qu'on trouvait que c'était un animal qui avait toujours l'air en bonne santé, qui était joufflu.
Donc il y avait des enfants qui s'appelaient...
Il y avait, on donnait porcelet et porcelette pour des petits garçons
sans
et des petites filles.
Sans déconner. Pardon.
C'était des prénoms qu'on donnait aux bébés bien joufflus.
D'accord.
Ça pouvait aussi désigner un paresseux, parce que le porc avait quand même tendance à se prélasser. Et donc, on le donnait aussi comme surnom à quelqu'un qui avait tendance à ne pas en faire trop lourd.
Dites-moi, vous y connaissez vraiment Marie-Odile, là, en porc. Alors, d'autres histoires comme ça, justement, de rencontres improbables entre des noms de famille.
Alors, j'ai un bel exemple dans le sud de Touraine, où un monsieur Beauvilain a épousé une patrolée.
Oh,
ça, je trouve ça adorable.
Et Mademoiselle Peu-de-Pièce.
Oui, elle a épousé un Richard.
Wow, et ça a marché entre eux ou pas?
Oui, ça marche.
Ah bah super, on les embrasse d'ailleurs s'ils sont à notre écoute. Ça me rappelle deux histoires, nous écrit Sylvie. Une copine à l'école s'appelait Sylvie Trouet. Ses parents se sont mariés et elle s'est donc appelée Belfort, la Trouée de Belfort. Puis une ex-collègue qui s'appelait Lelay, elle s'est mariée et elle est devenue Madame Grossin. Parfois c'est bizarre, mais c'est vraiment rigolo. Est-ce qu'on peut revenir sur ces mots, Lelay, Grossin?
Oui, alors Lelay, ça s'écrit maintenant de plus en plus avec A-I-T à la fin par amalgame avec le liquide. Mais au départ, c'était le lait avec un D. C'est-à-dire, on l'écrirait maintenant avec un D. C'est-à-dire une personne pas très très belle. C'était le surnom de quelqu'un qui n'avait pas un physique très avantageux et gros. Il y a quantité de terminaisons. À chaque fois, ça désignait une personne qui était un peu dodue.
D'accord. Ah oui, donc effectivement, voilà. Madame Lelay qui épouse Monsieur Grossin, c'est...
Oui,
d'accord.
Ou l'inverse,
la
mais
totale.
Ça fait pareil.
Voilà, exactement. On va accueillir, si vous le voulez bien, maintenant, sur cette antenne, Mathieu. Bonjour Mathieu.
Bonjour Flavie.
Comment allez-vous Mathieu? Merci d'être avec nous.
Ça va très bien, merci.
Alors, comment ça s'est passé pour vous, votre scolarité?
Ça a été dur.
Vous en avez entendu de belles?
Oui, des vertes et des pas mûres, si je puis dire.
Oh, monsieur Orange, vous avez beaucoup d'humour.
Au bout d'un moment, on est un petit peu obligé, parce que c'est vrai que la scolarité, elle n'a pas été facile tous les jours.
C'est assez formateur, je suis d'accord avec vous. C'est assez formateur et on entend parfois de belles sur nos prénoms. Alors, vous pensez que Orange est un nom normand. Vous voulez en savoir un petit peu plus, mais il va falloir être un tout petit peu patient, Mathieu, parce qu'on va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL, d'accord?
D'accord.
À tout de suite, Mathieu, merci.
À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Il en a entendu, donc, il nous le disait il y a un instant, des vertes et des pas mûres au sujet de son nom de famille. Nous accueillons donc Mathieu Orange sur la grande radio rouge qui est RTL. Mathieu, vous êtes toujours avec nous.
Oui.
Voilà, vous demandez si ce nom est normand. Est-ce à dire que vous êtes d'origine normande?
Disons que aussi loin que remonte mon arbre généalogique, je suis normand.
Ouais.
Donc ma foi, je serais bien curieux que ça ne soit pas normand, en effet.
Eh bien, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, comme disent les Normands. Et c'est Marie-Odile Merniak qui va vous répondre. Orange, citron, ça nous fait voyager en fait à cette époque-là, il y a longtemps.
Oui, c'était des fruits exotiques à l'époque, au Moyen-Âge. Des citrons, il y en a extrêmement peu de personnes qui portent ce nom, donc on peut imaginer qu'il s'agit de marchands de citrons, d'autant plus qu'on les trouve surtout sur Paris. Orange, ils sont 2300, principalement en Normandie,
Puis
quelques petits foyers épars en France. Et ils sont trop nombreux pour que ça puisse être simplement un marchand d'orange. Donc, il peut s'agir aussi d'un lieu d'origine, mais Orange dans le Vaucluse est quand même bien loin de la Normandie, ou bien d'un surnom donné à quelqu'un qui travaillait au service de la dynastie d'Orange. C'est-à-dire Belgique, Pays-Bas, après tout, ça n'est pas si loin.
Eh oui.
Et la dynastie d'Orange était très honorée. On a souvent, justement, revendiqué la couleur. Les carottes, Si elles sont oranges, c'est à cause de la dynastie d'Orange. Au Moyen-Âge, elles étaient blanches, mauves, elles étaient toutes les couleurs. Et les jardiniers néerlandais, qui étaient les plus gros producteurs, ont choisi et privilégié celle qui était orange. Donc, voilà, peut-être quelqu'un qui était au service de la dynastie d'Orange.
Mathieu, est-ce que vous bossez pour une boîte de téléphonie ?
On me l'a souvent demandé.
Désolée.
Je vous avoue qu'à chaque fois que je vais dans un magasin, on me demande si je me moque pas du vendeur. À tel point que je présente ma pièce d'identité pour prouver que non.
Ouais.
Et je suis chez France Télécom Orange.
Ah bon, ben bah voilà, bah, comme quoi. Ils peuvent nous remercier et vous remercier pour la pub, hein, quand même. Hein,
ouais. Oui.
Bon, en tout cas, Mathieu, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Vous vouliez nous rajouter.
Ouais. Oui, j'avais une petite anecdote au niveau des mariages un peu. Spéciaux.
Ah oui,
j'espère que mes parents m'en voudront pas.
Mmh, bah,
Donc mon père s'appelle Orange et ma mère s'appelle Vigor.
Ouais.
Et à l'époque où ils se sont mariés, la publicité pour vendre la lessive Vigor, c'était Vigor passé à l'orange.
Wow, c'est trop mignon ça, c'est super. Au contraire, voilà de belles histoires, Mathieu, des histoires de noms de famille. Vous pourrez faire un clin d'œil à vos parents, vous les embrasserez pour nous. Et puis vous pourrez écouter cette émission en podcast sur RTL.fr si on ne vous croit pas non plus. Voilà, tout simplement. Merci en tout cas, Mathieu. Je vous
Merci
souhaite une
vous.
Bonne fin de journée. Je vous embrasse, à bientôt.
Moi aussi, au revoir.
Au revoir. Manon, elle nous parle du nom Robin. Nous sommes beaucoup, j'aimerais connaître les origines et juste vous dire aussi que votre émission est géniale. Merci beaucoup Manon, vous êtes trop sympa. Alors les Robins, effectivement, ils sont nombreux en France.
Les Robins, très nombreux. On a
51 000 personnes, c'est ça ?
Voilà, 51 000 personnes. C'est un ancien prénom qui veut dire gloire.
C'est classe.
C'est très classe. Et c'était le prénom du chef de famille d'origine, donc un prénom qui était très à la mode au Moyen-Âge. Et Jean Robin ou Marie Robin, c'était Jean fils de Robin ou Marie fils de Robin. Et on trouve quantité de diminutifs, c'est-à-dire qu'on a comme nom de famille, on a des Robineaux par exemple, ça veut dire petit Robin. Et on a aussi des Robinets.
Ah, c'est différent ça. Ah non, donc c'est un Robinet a Robinet, quelque chose voilà, à voir avec la gloire.
La n'existait pas.
Les
robinets non plus, oui. L'eau courante non plus, et robinet c'était un petit diminutif affectueux de Robin.
D'accord.
Donc il y en a 7000 quand même en France qui l'ont comme nom de famille.
On salue les robinets qui nous écoutent. Nicolas, chéri et non pas chéri ou Richie ou shérif, cordialement Nicolas. Alors justement, chéri c'est porté par 300 personnes en France.
Oui, principalement dans les Bouches-du-Rhône, en Corse, en Italie aussi, et surtout dans le Piémont d'ailleurs en Italie, et ça signifie fils de Chiros. Chiros était un ancien prénom d'origine grecque qui désignait la ville de Chiros en grec. On a beaucoup de noms de famille qui sont d'anciens prénoms évoquant une ville ou un lieu d'origine. François, c'est français. Romain, c'est Rome, par exemple, à l'origine. Et puis, on a Bayonne qui se donnait comme prénom au Moyen-Âge, qui a donné naissance à quelques noms de famille. Et on avait même pour les filles des Bayonnettes.
Et alors quand les baïonnettes rencontraient des porcelets, dis donc.
Et les baïonnettes, le prénom a cessé de se donner au XVIe siècle quand on a créé l'arme, en fait.
Ah, c'est fou, tous ces prénoms qui sont morts au fil du temps parce que leur signification était différente.
L'arme était fabriquée à Bayonne et on l'a nommée en fonction de la ville et le prénom a aussitôt disparu.
On a également des messages de Miguel, puisque vous parliez de voyage. Miguel, mon nom est Romanos. J'aimerais connaître ses origines. Je sais que c'est espagnol, mais il y a peut-être une histoire derrière tout ça. Gracias.
Alors, espagnol, c'est...
Pas tant que ça.
Non, pas tant que ça. Si on regarde le site, l'équivalent de l'INSEE espagnol, c'est ine.es. Et vous avez les statistiques sur les noms de famille. Le site vous dit ce nom n'existe pas. C'est-à-dire qu'il est en dessous des 15 personnes sur le pays tout entier.
Donc soit il est très 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 rare, soit il n'existe
très rare, soit il n'existe pas. En Italie, même chose, parce qu'il pourrait être italien. Et c'est en Grèce qu'on le trouve, porté par 2000 personnes. Effectivement, on a beaucoup de noms grecs qui se terminent par os.
C'est vrai.
Et ce suffixe signifie que le nom évoque un lieu ou une localité d'origine.
Très bien.
Donc, ça pourrait être originaire de Rome.
Et en même temps, celui qui nous écrit, qui s'appelle Romano, s'appelle Miguel. Donc Miguel, éventuellement, laissez-nous un message pour nous dire si votre prénom a été choisi en fonction de ce qu'on pouvait imaginer sur votre origine. Parce que parfois, on peut donner un prénom espagnol en se disant c'est un nom espagnol. Bah, peut-être qu'il vous aurait fallu vous appeler Nikos, tout simplement, parce que c'est plutôt grec, Romanos. On va se retrouver, si vous le voulez bien, dans un instant. Je suis en train de récupérer donc tout. Vous aimez les petites bulles pour fêter, le champagne et tout?
Ah, bon. Modération. Oui.
Très bien, parce qu'il y a quelqu'un qui vient de vous lancer un défi, c'est Ingrid. Et effectivement, elle promet une bouteille de champ à qui lui dit la signification de son nom de famille. A tout de suite, Ingrid.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Marie-Odile Merniac, vous êtes notre invitée. Vous êtes historienne généalogiste et vous avez adoré, et j'espère d'ailleurs que vous adorez relever le défi que nous lancent les auditeurs, et surtout vous allez peut-être adorer le gain d'une magnifique bouteille de champagne à consommer avec modération que promet Ingrid Hvas, H-V-A-2-S, pour trouver l'origine de son nom de famille. Est-ce que vous relevez le défi?
Oui, je veux bien.
Ingrid, vous êtes foutue, on va trinquer à votre santé. Alors, de quoi s'agit-il? Hvas, ça ne fait pas du tout français.
C'est danois.
Ah,
c'est danois.
Très bien.
Et on trouve quantité de célébrités danoises. On a un zoologue à Copenhague, Hans Hvas. Enfin, je ne le prononce sûrement pas avec le bon accent danois. On a un archéologue, directeur de musée au Danemark, Steen Hvas lui aussi. Et en France, on a un chirurgien à l'hôpital Bichat, chirurgien de chirurgie cardiaque, Ulrich Hvas, qui est en France. Le nom est arrivé en France il y a relativement peu de temps.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est un nom qui, au départ, veut dire tranchant, affûté, aiguisé. Pour un chirurgien, ça tombe bien. Ça évoquait plutôt, au départ, le caractère de la personne. C'est-à-dire quelqu'un qui avait un caractère vif et tranchant.
Très bien. Ingrid, donnez-nous de vos nouvelles. 22 rue Bayard, 75 008, Paris, à RTL. Catherine, ma mère s'appelle... Non, je ne peux pas. Mais si, vous pouvez justement, Catherine, et vous l'avez fait sur Twitter. Ricard, j'ai peur de savoir. Est-ce que ça a un rapport avec... la boisson estivale à consommer, elle aussi avec modération.
Alors c'est vrai qu'on trouve les Ricard dans le sud. Mm-hmm. Après tout, c'est la région du pastis. Pardon, je ne...
Mais on est d'accord.
Et il y a 12 000 personnes qui le portent et c'est la variante provençale de Richard.
Prénom.
Donc, un prénom.
Donc
au départ,
Catherine, tout va bien.
Qui signifie « puissant et fort ». Donc,
c'est quand même mieux que ce que vous imaginez,
sympathique.
Catherine. Le nom de famille U-H-U-E, est-ce que ça a un rapport avec les chevaux ?
Non, pas du tout. On pourrait imaginer un charretier qui essaie de faire avancer ses chevaux. Non, c'est un prénom lui aussi. D'accord. Un prénom, l'équivalent de Hugo, une forme ancienne. Et Hugo signifie intelligence.
Très bien,
donc,
merci
beau
pour
nom.
Cette information. Très joli nom, le nom de U. On a un message de Jean. Son père, monsieur Labroche, a épousé madame Duclos. Donc ça, c'est pour la blague. Christiane, mon nom de famille est tête vide. Je ne vous dis pas toutes les moqueries que j'ai et que je subis encore. Alors, est-ce qu'on aggrave le cas là, de Christiane qui nous écoute en toute bienveillance, évidemment, ou pas?
Un petit peu, puisque tête vide, c'est tête vide. Vide, c'est l'ancienne forme de l'adjectif. C'était le surnom, pas très sympathique, donné à quelqu'un qui...
On vous embrasse, Christiane.
N'était pas rapide.
Mais tout va bien, Christiane. Mais c'est vrai que
c'était
pas toujours facile.
C'était il y a 800 ans, donc...
Voilà, exactement.
De l'eau a coulé sous les ponts. Et puis, il faut se dire aussi que les voisins de l'époque n'avaient pas forcément la langue bien tendre.
Voilà, c'est ça. Donc, c'était effectivement parfois du règlement de compte. Ève, tiens, d'ailleurs, à ce propos, le nom de famille de mon mari est Babouin. Pas facile à porter, surtout pour les enfants. Babouin, oui. Est-ce que ça aussi, c'est...
Ça vient de babou, qui voulait dire mou. Donc, ça pouvait désigner soit quelqu'un qui avait le visage un peu...
Distendu,
voilà. Soit dans le sud, ça évoquait quelqu'un qui était un petit peu nigaud, le ravi de la crèche, voilà.
D'accord, donc qui peut-être effectivement rencontrait à ce moment-là des têtes vides, et comme ça tout le monde était ensemble. Tiffany, mon nom de jeune fille est L'Ouvrier Baucher, et mon nom d'épouse est Mange. J'ai toujours très bien vécu de porter ces noms, mes enfants aussi pour l'instant. Ça vient d'où ça, L'Ouvrier Baucher, est-ce que c'est un seul nom ou deux noms finalement?
Deux noms associés. L'Ouvrier, c'est l'ouvrier, mais alors au sens du Moyen-Âge, c'est-à-dire celui qui ouvrait, c'est-à-dire qui travaillait, qui créait une œuvre, plutôt un artisan, les usines n'existaient pas, c'est l'indication d'un artisan. Baucher, c'est le boucher, c'est une forme locale bretonne du boucher. Le mot signifie au départ qu'ils vendaient de la viande de bouc. Et puis mange, on ne s'y attend pas. C'est la forme lorraine, un diminutif de mange, qui est la forme lorraine de Dominique.
Le prénom.
Le prénom.
Ok, donc Jean-Sébastien Petit-Demange, qui fait partie d'RTL.
Voilà, Petit-Demange, ça veut dire Petit-Dominique.
Ah, c'est mignon ça.
Petit-Dominique.
Jean-Séb, ça
et
va
Dominique
rien dans les
ou Demange, c'est l'équivalent de dimanche.
Très bien.
Donc, c'est comme si on s'appelait Petit-Dimanche ou Dimanche pour Madame Mange.
Marie, bonjour, mon nom de jeune fille est Deloubrière. Je me suis mariée avec un monsieur Moule. Heureusement, nous avons tous la frite à la maison. Nous avons deux moulettes, Juliette et Louise Moule. J'adore votre émission. Merci beaucoup, Marie. Alors, comme elle adore notre émission, elle va l'adorer encore plus parce qu'on va lui donner l'origine, justement, de ses noms.
Oui, alors Moule, ça n'a rien à voir avec le bord de mer. C'est un nom qu'on retrouve à l'intérieur des terres et qui désignait, c'était une mesure de stère de bois.
Ah, on disait pas une stère, on disait une moule.
Voilà, c'était une.
Je vous en prendrai une petite moule.
Voilà, c'est ça. Donc c'était utilisé pour le bois et ça désignait soit un bûcheron, un marchand de bois, soit un mesureur.
Ok. Et Deloubrière ?
Deloubrière, quand on a des noms qui commencent par deux, il s'agit soit de l'indication d'un lieu d'origine, donc il faudrait chercher des Loubrières, Laubrières, Aubrières dans la région d'origine de la famille, ou une indication de filiation. On peut avoir des deux gens, et là, Loubrière peut être une forme féminine d'un ancien prénom germanique qui veut dire elfe puissant. C'est mignon.
C'est pas mal. Marie, j'espère que tout ça vous fait plaisir. Patrick qui nous écrit, moi c'est 7 S-E-2-T-E, si je pouvais en savoir un petit peu plus également. Mais oui, justement, on va vous le dire tout de suite, Patrick. Ça vient d'où 7 ?
C'est le chiffre 7 en Italie.
Ah oui ?
C'est principalement en Italie qu'on le trouve, même s'il y a 300 personnes en France, principalement dans le Nord-Pas-de-Calais. En Italie, on le retrouve vraiment un petit peu partout. Beaucoup de noms de famille évoquent des chiffres. Et là, il peut s'agir ou bien du rang dans une fratrie, ça peut être le septième enfant.
Okay.
Ou bien de l'indication d'un lieu d'origine, la septième maison ou le septième hameau sur une route ou sept bornes avant un col, avant un repère important. On trouve un petit peu tous les chiffres. Alors difficile, évidemment, 800 ans après, de connaître la signification exacte.
On a un tweet qui vient de nous arriver. Mon père s'appelle Crotte. Ma mère a préféré qu'il ne nous reconnaisse pas. De temps en temps, effectivement, il y a des noms comme ça. Crotte, ça vient de...
C'est une grotte.
C'est une grotte.
Oui, c'est tout.
Bah voilà, enfin.
C'est mignon.
Comme quoi, vous voyez, hein, effectivement, parfois on est dans l'interprétation d'un nom, mais c'est aussi la façon dont il est reçu que l'on envisage. On se retrouve tout de suite, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'RTL.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
On va faire un clin d'œil à Monsieur Dechoux de la part de son épouse, les douceurs de Daniel. Il est pâtissier, il écoute votre émission en ce moment même. Il est en train de faire de la pâte à choux, justement. Il est né à Toulouse, mais originaire de Lorraine par ses parents et s'interroge sur l'origine de son nom de famille. Merci pour lui. Dechoux, il vous faut faire une recherche ou est-ce que vous pouvez répondre directement, Marie-Odile Merniac ?
On a le 2 qui indique une filiation ou un lieu d'origine. On peut avoir soit... Le fils de quelqu'un qu'on surnommait Chou, et qu'il faut comprendre dans le sens de producteur de choux.
Ah, d'accord, pas les choux à la crème.
Pas les choux à la crème, ni le petit chou adorable, ce qui ne l'empêchait pas d'être adorable aussi, mais il produisait des choux.
Très bien.
Déjà. Ou alors d'un lieu qui s'appelait Chou, il faudrait vérifier s'il en existe en France et à quel endroit.
En tout cas, Daniel, envoyez-nous de vos choux à la crème, on est un petit peu gourmand dans l'équipe.
Ça accompagnera le champagne.
Voilà, exactement. Regardez comme elle est, Marie-Odile Merniac. Carole, mes parents ont des noms de famille très proches. Mon papa Chagnolo, ma maman Chaiolo. Est-ce que ces noms ont une origine similaire? Ils sont vendéens.
Oui, les deux tiers des noms vendéens se terminent par EAU, ça c'est le côté similaire, mais sinon l'origine n'est pas la même. Chagne, cette racine, veut dire chêne, ça désignait un endroit planté de chêne, la famille vivait initialement près d'un bois de chêne, alors que Chaiolo, c'était celui qui vivait sur un terrain caillouteux et sans arbres.
C'est joli.
Justement, donc c'est l'association joli. Est très belle.
Bonjour Laurine, bienvenue sur RTL.
Allô, bonjour.
Ah, Laurine, dis donc, vous la jouez star, on vous court après depuis 15 heures.
Ah oui, mais c'est mon smartphone.
Mais vous inquiétez pas, écoutez, l'essentiel c'est qu'on puisse s'entendre et puis surtout entendre votre joli nom de famille qui est Biancarelli. Vous aimeriez connaître ses origines.
Biancarelli, ouais.
Biancarelli.
On le prononce un peu l'italienne, quoi.
Vous m'en voudrez pas, je ne l'ai pas très bien fait, mais vous le faites très bien. Alors, Biancarelli, dites-nous, Marie-Odile Merniak, est-ce qu'effectivement ça nous emmène en Italie ?
Plutôt en Corse. Mm-hmm. On en trouve 350 en France, sur la Corse et le Sud, une centaine en Italie, en Ombrie, très belle région. Et puis, c'est un nom qui... avec ce diminutif en I, Eli et Ti, on en a beaucoup de variantes, ça indique une filiation. Donc c'était celui qui était le fils ou qui était de la famille de la personne surnommée Bianca ou Bianco. Donc ça peut être soit un prénom, mm-hmm. Bianca c'est blanche, voilà, c'est ou blanc, soit l'évocation de quelqu'un qui avait des cheveux précocement blancs.
Très bien.
Surnom également.
Voilà, Laurine, comme ça vous connaîtrez, vous pourrez raconter à votre entourage, à vos enfants, l'origine de votre très joli nom de famille.
Eh ben, ça me fait très plaisir.
Et puis merci pour votre fidélité, Laurine, parce qu'on vous retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux. Je vois vos messages qui apparaissent et ça nous fait super plaisir. Je vous embrasse.
Je vous embrasse aussi.
À bientôt. Salut, Laurine. Merci.
Allez, merci. Au revoir.
Au revoir. On continue à voyager. Biancarelli, un certain Vincent Cerruti nous a appelé au 3210. Il voudrait connaître l'origine de son nom de famille. Il insiste sur le fait que ça s'écrit avec un R et deux T. Ça n'est pas courant, nous dit-il.
Vincent, c'est quand même attention. Assez courant. 1500 en France quand même et 15 000 en Italie. Okay. Ça désigne le chêne.
Très bien.
C'est, voilà, le chêne en italien.
C'est puissant, le chêne.
Exactement.
Voilà. Allez, un clin d'œil à Vincent Cerruti, donc, qui est un auditeur d'RTL. Mélanie, mon nom d'épouse est Porte. Comme une porte, demandent souvent les gens. Je trouve ça plutôt amusant.
Oui, comme une porte, c'est fait ça. Soit la maison de l'ancêtre initial avait une très belle porte, un très beau portail, et on l'a repéré dans le village comme ça. Mm-hmm. Soit la famille vivait à côté de la porte d'une ville. Les villes étaient autrefois entourées de remparts et il y avait des octrois pour pouvoir rentrer. Donc, quand on vivait à côté... On était surnommé de cette façon-là.
On va accueillir Eric. Bonjour Eric, bienvenue sur RTL.
Bonjour Flavie.
Est-ce que vous la portez ?
Je l'ai portée, je ne la porte plus.
D'accord, vous l'avez rasée ?
Je l'ai rasée, oui.
Bon,
il y a quelques temps déjà.
On ne parle pas d'un chien, on parle de votre barbe. Vous vous appelez Eric.
À la barbe.
À la barbe, d'accord, à la voilà. Barbe. Est-ce que ça vient justement du système pileux, foisonnant
Non, ça vient du prénom.
Ah, mais quel prénom ?
Le prénom Barbe.
Ah oui, d'accord.
Ça existait, ça ne se donne
c'était
plus
C'était du temps des porcelets et des baïonnettes.
Voilà, c'est ça. Mais c'était un prénom féminin extrêmement courant au Moyen-Âge, qu'on retrouve principalement en Normandie. D'ailleurs, les à la barbe sont normands principalement. Oui. On en a une centaine sur la basse Normandie. Et la Normandie est la région de France où l'on trouve des prénoms féminins qui se sont transmis en nom de famille. Donc là, c'était les enfants de... à la barbe, de celle qui se prénommait Barbe, parce que les veuves en Normandie avaient le droit d'hériter et d'être donc indépendantes, ce qui n'était pas le cas des autres régions de France où elles retombaient sous la coupe d'un frère, d'un père. Voilà, elles avaient une autonomie en Normandie qui fait qu'elles étaient chefs de famille et qu'elles ont transmis leur prénom.
Voilà, les bonnes Normandes. Eric,
surprenant.
Voilà, Eric, comme ça vous pourrez raconter l'histoire de votre nom de famille à ceux qui vous entourent. Je me permets de vous embrasser, monsieur à la barbe, et je vous souhaite
merci
une bonne fin
vous.
De journée. À bientôt.
Merci, au revoir.
Alors, bon, vous avez pensé que j'ai l'esprit mal tourné, mais enfin, bon, quand je vois passer des messages comme ça, évidemment, je m'interroge. Mon beau-père a pour nom de famille Membré. Serait-il possible d'avoir la signification ? Vous pouvez nous la trouver, là ?
Alors, je regarde dans mon
Alors,
fichier.
Alors, on se retrouve dans un instant. Monsieur, madame Membré, on va vous dire d'où ça vient. Et puis, je vous parlerai également du programme de demain. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Y a-t-il beaucoup de membrés en France, Marie-Odile Merniak ?
Environ 800.
C'est pas mal.
Et ça désignait quelqu'un qui avait de gros membres, mais sans préciser lequel.
Très bien, merci. Donc voilà, à bon entendeur. Salut. Alors, je voudrais préciser à tous ceux qui nous écoutent et qui sont encore un petit peu frustrés aussi, que nous allons vous reproposer, Marie-Odile ne le sait pas, mais elle le sait maintenant, une émission au mois de septembre sur les prénoms, puisque vous êtes si nombreux à réagir. On le fera avec plaisir. Sachez que vous pouvez vous rendre sur généalogie.com. comme sur geopatronyme.org et sur archivesetcultures.fr où vous aurez un accès, et ça Marie-Odile Merniak, merci, un accès à votre base de données qui permet effectivement de trouver l'origine des noms de famille.
C'est ça, et pour les prénoms, c'est geneanet.org, comme ça vous aurez tout.
Exactement.
Sur les prénoms et les noms.
Et sachez que nous allons vous concocter un bulletin spécial à l'issue de cette émission sur notre page Facebook où vous aurez justement toutes les coordonnées de ces sites. Je vous conseille également l'Atlas des noms de famille chez Archives et Culture, donc de notre invitée Marie-Odile Merniac. Je vous remercie Marie-Odile d'avoir relevé le défi en direct sur RTL.
Merci à vous.
Dès qu'on reçoit la bouteille donc d'Ingrid, on vous la fait passer, et pareil pour les petits choux donc de Daniel. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis avec autant d'enthousiasme. Sachez que demain Stéphane Bern aura un invité, d'ailleurs Pradel, on en avait parlé la dernière fois, ce sera Jacques Pradel, un invité d'honneur. Voilà, Monsieur Laprairie, demain Jacques Pradel sera chez Stéphane Bern à l'occasion de la sortie de son livre Vous avez dit étrange. Voilà, une émission à partir de 11h sur RTL. Et nous, on se retrouvera dès 15h pour parler de quoi ? De la vengeance. Certains la nourrissent, d'autres la jugent inutile. Trahison amoureuse, mensonge familial, traîtrise professionnelle. Est-ce que tout doit se payer dans la vie ? On en parle demain à 15h en direct avec vous sur RTL, bien sûr. Marie-Odile Merniac, je vous remercie encore.
Merci.
À la prochaine. Passez un très bel été. Et nous, on se retrouve demain. Et tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grosses têtes. Je vous embrasse. À demain.
Vous écoutez RTL.